Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, en quoi consiste la vie de l'esprit ? Dès 1939, Paul Valéry constate que ses contemporains souffrent d'une intoxication par la hâte. Il écrit à propos de ce qu'il appelle le destin de l'esprit « L'exagération de tous les moyens de communication soumet les esprits à une agitation et à une nervosité généralisée. Nous vivons sous le régime perpétuel de la perturbation de nos intelligences. Nos corps et nos esprits doivent absorber sans un jour de repos autant de musique, de peinture, de drogue, de boissons bizarres et de déplacements, de brusques changements d'altitude, de température, d'anxiété politique et économique que toute l'humanité ensemble, au cours de 3 siècles, en pouvait absorber jadis. » Fin de citation. Que ne dirait-il pas s'il revenait aujourd'hui parmi nous ? Avec l'avènement du numérique, le constat qu'il a établi il y a plus de 8 décennies n'a cessé de s'accentuer dans des proportions que nul n'aurait pu imaginer. Dès lors, la question qui se pose aujourd'hui est « Que devient la vie de l'esprit ?» Dans un monde gorgé d'écrans, saturé d'informations, sans cesse rythmé par les clics, excité par la scintillation fantastique des événements, comment parvient-elle encore à se déployer ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir François Julien. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, helléniste et sinologue et vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire un livre dont le titre répond à la question « Raviver de l'esprit en ce monde ». Première question, François Julien, pourquoi de l'esprit ? Pourquoi ce partitif, comme
oui,
on dit ?
C'est de l'esprit et non pas l'esprit, l'esprit avec un grand E, qui nous tournerait vers la, nous ramènerait à la conception traditionnelle, en tout cas métaphysique, de l'esprit séparé du monde et qui en ferait une entité. Non, si j'ai voulu le partitif et si j'ai tenu, c'est parce que je dis de l'esprit comme je dirais du pain, du vin, n'est-ce pas ? C'est-à-dire en me maintenant dans le concret, dans le phénoménal, pour essayer d'approcher cette capacité propre qu'on peut appeler de l'esprit, et effectivement qui me paraît à défendre aujourd'hui dans ce que Valéry décrit si bien du monde de son temps, mais qui s'est tellement aggravé depuis. En même temps, je dirais, il ne s'agit pas pour moi de dénoncer ou disons de parler même de déclin, comme il a dit dans son texte, n'est-ce pas ? Plutôt de diagnostic, voir qu'est-ce qui se passe, c'est voir comment nous pourrions faire aujourd'hui de l'esprit, dans ce partitif, un concept de combat.
Mais il ne s'agit pas d'avoir de l'esprit, mais plutôt de faire vivre l'esprit.
Si faire vivre l'esprit et donc de penser le rapport entre la vie et l'esprit. Puisqu'au fond, si je ne veux pas substantialiser, essentialiser, bref, de faire de l'esprit un être métaphysique, il faut bien que je le pense dans cette capacité d'aviver, n'est-ce pas ? Au vif de l'esprit, au vif. Alors ce n'est pas, oui, le trait d'esprit, mais disons, c'est certes, c'est dans ce terme qui est très diffus et très vaste, n'est-ce pas ? Parce qu'en fait, entre le pneuma grec, rua dans la Bible, spiritus, geist en allemand, tout ça, c'est des termes très divers. Voir qu'est-ce qui peut, à travers tous ces termes divers, disons, se condenser, s'activer, tiens ce terme, s'activer comme capacité d'esprit qui serait donc, qui nous permettrait de décoïncider de ce qui est la grande coïncidence technique marchande d'aujourd'hui, où cet esprit me paraît largement rabattu.
Mais comment est-ce que vous expliquez, François Julien, que Paul Valéry, qui n'a pas connu ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique, ait pu faire un constat qui ressemble au vôtre ?
Ah ben, je pense qu'il a une intelligence, un éveil, si vous voulez. Quand il dit, au début du XXe siècle, nos autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels, là, il y a quelque chose qui est une capacité, justement, de diagnostiquer. C'est pas de la prévision, c'est pas de la... Non, c'est simplement...
C'est pas de la dénonciation non plus.
Non, c'est d'arriver à analyser, à discerner ce qui ne fait qu'apparaître, ce qui est encore, enfin, chez lui, au stade de l'amorce, n'est-ce pas, dont il voit la logique. Et donc, qui permet de s'en saisir pour commencer à réfléchir. Le diagnostic, c'est ça.
Il y a une autre phrase de Paul Valéry qui, elle, date de 1936, donc 3 ans avant la précédente. Et je voulais savoir, François Julien, ce que vous en pensez. Est-ce que vous feriez aujourd'hui le même diagnostic que lui en 1936? Il écrit « On pouvait encore, il y a quelques 30 ans, examiner les choses de ce monde sous un aspect historique. C'est-à-dire qu'il était alors dans l'esprit de tous de chercher, dans le présent d'alors, la suite et le développement assez intelligible des événements qui s'étaient produits dans le passé. la continuité régnait dans les esprits. Mais pendant les 30 ou 40 ans que nous venons de vivre, trop de nouveautés se sont introduites dans tous les domaines, trop de surprises, trop de créations, trop de destructions, trop de développements considérables et brusques sont venus interrompre assez brutalement cette tradition intellectuelle, cette continuité dont je parlais. L'homme se trouve assailli par une quantité de questions auxquelles aucun homme jusqu'ici n'avait songé, philosophe ou non, savant ou non. Fin de citation.
Oui, mais je pense que ce sentiment de se dire « mon époque est différente des précédentes », elle est, disons, travaillée, même surchargée par, disons, des renouveaux que l'on n'attendait pas. Je pense que c'est un peu commun. Au fond, je crois qu'il y a quelque chose que... Et moi, je pense plutôt en termes de transformation silencieuse. C'est-à-dire de transformations qui sont globales, continues, qu'on n'entend pas cheminer parce qu'elles sont globales et continues.
Qu'on ne constate qu'à la fin.
Oui, dont on ne pense même pas à parler, mais dont on perçoit ensuite le résultat sonore. Quand elles affleurent d'autant plus de façon sonore qu'on ne les a pas perçues auparavant cheminer. Donc, je me méfie un peu de tout ce théâtre de la crise qui focalise, qui dramatise, bref, qui fait que ce présent serait le présent d'exception dans l'histoire. Non, voire plutôt, c'est diagnostiquer ces transformations silencieuses qui, encore une fois, parce que le global est continu, ne se démarquent pas, donc ne se remarquent pas, mais qui, quand elles affleurent, alors, font d'autant plus de bruit dans leurs résultats.
Vous faites d'ailleurs dans le livre une comparaison avec le changement climatique, qui est actif depuis des décennies, et puis tout d'un coup, on parle d'urgence.
Absolument, parce que c'est global et continu. Donc, ça n'était pas perçu, alors que c'était à l'œuvre, en gestation. Et puis, maintenant que ça affleure, alors, ça devient sonore. Mais justement, s'il y a cette... transformation silencieuse, globale et continue du climat, qui maintenant devient sonore et qui nous fait réagir, et Dieu merci, il faut réagir. Il y a peut-être une autre transformation silencieuse que nous ne percevons pas cheminer, mais qui est aussi menaçante, qui est celle de la perte de l'esprit.
C'est justement le sujet, et vous commencez votre livre, François Julien, en parlant longuement du clic, le clic. De quoi le clic serait-il le symptôme et quels sont ces symptômes? Qu'est-ce qu'il engendre comme nouveau rapport au temps, à l'espace, aux autres, aux vacances, à la consommation, aux livres, etc.
Oui, alors le mot est court, clic, c'est pas. C'est ce qui fait sa commodité. Mais effectivement, je crois qu'on peut réfléchir et longuement à ce qu'il a modifié du monde et de nous-mêmes. Et je dirais que pour aller vite que... Je crois que le clic nous met dans le fantasme de l'immédiateté. Donc, il n'y a plus à chercher à avoir accès. Il n'y a plus à accéder puisqu'il suffit d'un clic pour que ça arrive, n'est-ce pas ? C'est une sorte de coup de baguette magique, comme ça, qu'on produit, qu'on essaie de produire à tout instant, dès lors qu'on fait clic. Et l'idée qu'on pourrait obtenir d'emblée. Donc, il n'y a pas à accéder. Alors, ce qui me paraît, disons, pouvoir être inquiétant, c'est ce qu'il en est du désir. Si tout s'obtient par clic and collect, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a du cheminement qui fait qu'on puisse désirer, qu'on puisse accéder, bref, qu'il y a quelque chose qui en nous se mobilise et, disons, nous permet de, à travers l'effort, à travers, disons, à tâtons, nous permettre d'aboutir à un résultat qui ne soit pas directement la conséquence de ce qu'on a engagé.
Mais vous citez les publicités que vous avez eues dans le métro, vous êtes à un clic de vos prochaines vacances en Égypte.
Oui, parce qu'il y a la photo, évidemment, enfin la photo, l'image des pyramides et du sable égyptien. Et cette idée qu'au fond, il suffit d'un clic pour se transporter dans un ailleurs. Et tellement tout a été, les dispositifs sont aménagés. C'est ça qui me paraît le plus marquant. C'est qu'au fond, tout est aménagé, disposé. On n'a plus qu'à cliquer, c'est-à-dire à cocher une case. Mais tout est déjà prédéterminé.
Mais vous parlez d'instantané, mais en réalité, quand il y a un petit retard entre le moment où on clique et le moment où la page apparaît, ça n'empêche pas d'être impatient.
D'être impatient, parce que le temps est d'autant plus long, paraît d'autant plus long qu'on est dans ce régime de pseudo-instantanéité, c'est-à-dire d'une immédiateté, mais qui est une immédiateté factice, en fait. Parce qu'elle dissimule tout ce qu'il y a de dispositifs précédents qui ont prédisposé à cette possibilité. Et donc, on croit qu'il suffit d'un clic soi-même, de faire un clic, pour que cela advienne, mais en fait, tout s'est prédéterminé. Et disons, à travers tout l'appareillage d'algorithmes et de tout ce qui permet de confectionner cette case qui ensuite n'a plus qu'à être effleurée.
Donc le clic, c'est en quelque sorte la fin de l'aventure.
La fin de l'aventure et disons aussi peut-être de l'effort, n'est-ce pas, de la persévérance, de tout ce qui serait, qui mobiliserait effectivement la volonté et qui permettrait, disons, un déploiement de la capacité du sujet. C'est ça qui me paraît en question aujourd'hui, c'est cette figure du sujet qui me paraît se décomposer, parce qu'elle ne laisserait plus paraître ce qui, pour moi, on sait que la figure du sujet, elle a été très malmenée dans la philosophie, mais ce qui me paraît constituer le sujet, c'est sa capacité d'initiative, au sens propre du latin initium, être au commencement de quelque chose. Et là, s'il n'est plus qu'à cliquer, je ne suis plus au commencement, à l'émergence de quelque chose, je suis dans le réactif.
Et vous suivez plutôt une procédure qui ne dépend pas de vous, quasiment.
Et qui est déjà prédéterminée, prémâchée. Enfin bref, je suis dans quelque chose de canalisé dont je ne sais pas quels sont les bords et dont je ne sais pas comment ça a été fait. Mais disons, ce qui me paraît pouvoir être une inquiétude, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'itinéraire propre à partir d'une initiative qui serait la mienne et qui chercherait.
Éric Sadin, qui est philosophe comme vous, vient de publier un livre qui s'appelle « La vie spectrale », où, parlant de ce sujet que vous évoquez là, évoque l'idée d'un promptisme généralisé. Mmh. Est-ce que c'est un terme que vous reprendriez ?
Oui, alors avec l'effet de stress qui en découle, mais le prompt, oui, c'est-à-dire cette sorte de... Ce qui n'est pas de l'agilité. Je plaide pour l'agilité comme capacité à ne pas être engoncé, n'est-ce pas, dans un comportement et à pouvoir être disponible dans son activité, l'agilité. Mais prompt, c'est une sorte de... C'est le régime de la réactivité, qui n'est donc plus le régime de la pensée. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de déplorer quelque chose, mais j'essaie de faire un diagnostic pour voir comment s'opposer à ça, pouvoir résister à ça, pouvoir faire de l'esprit un concept de combat.
Bah, vous dites que vous faites un diagnostic, mais on sent, vous sentez aussi venir des choses. Vous dites que nous sommes menacés par ce que vous appelez un rabattement de l'esprit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rabattement de l'esprit ? Je peux vous lire la définition que vous donnez dans le livre, mais je préférais que vous la retrouviez vous-même.
Je pense que si vous voulez rabattre, c'est un verbe qui me paraît intéressant en français. Parce qu'on rabat un arbre, c'est-à-dire qu'on coupe ce qui est sa cime, parce que ça déborde, parce que ça fait de l'ombre, parce que ça trouble un peu l'harmonie qu'on veut garder, aménager. Ou on rabat un troupeau, ou rabattre du gibier. Bref, c'est un verbe qui a des emplois très divers, mais qui dit chaque fois la perte d'une capacité. L'érosion, la perte d'une capacité, ce n'est pas abattre. Abattre, c'est une action décisive. Les chaînes qu'on abat pour le bûcher d'Hercule, comme dit l'autre. Non, rabattre, c'est pas abattre, c'est simplement diminuer un essor. Et c'est cette diminution d'un essor, en ce cas-ci, de l'esprit, qui me paraît inquiétant. Parce que rabattre n'est pas spectaculaire.
On bride une initiative.
Oui, on bride, mais enfin, on fait tout ce qui fait que... Parce que, vous voyez, le rabattement, au fond, on peut ne pas en être conscient. Il peut relever d'une transformation silencieuse, donc d'un phénomène global, continu, qui ne se remarque pas vraiment, mais dont on constate les résultats. Et peut-être que nous sommes en train de nous engager dans des vies rabattues.
Alors, vous parlez beaucoup de numérique, je l'ai dit, François Julien. Mais ce qui me frappe moins, c'est que la commodité technique du numérique nous permet de l'utiliser avec beaucoup d'agilité, sans du tout savoir comment il marche.
Oui, alors je pense que...
Est-ce que vous diriez que la technologie, d'une certaine façon, nous éloigne de la science qui la rend possible ?
Oui, alors je dirais moins agilité que promptitude, pour revenir au terme précédent, parce que agile me paraît relever encore d'une capacité
de comprendre,
du sujet.
Oui.
Disponibilité qui fait qu'il peut s'adapter à des situations différentes et, disons, ne pas se laisser prendre dans les conditionnements. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un pseudo-immédiat, puisque vous l'avez dit, dès que ce n'est pas totalement immédiat, et ça ne l'est jamais totalement, on peut très vite, disons, trouver le temps long et, disons, s'impatienter. Mais il y a un régime institué d'une certaine réactivité systématique qui fait qu'il n'y a plus vraiment de trous, de vide, d'espace, où quelque chose comme une initiative, une remobilisation de sa capacité puisse se déployer. C'est ça qui me paraît, disons, encore une fois, pour être inquiétant, mais quand je dis ça, c'est pour justement y répondre, y résister.
Mais j'imagine qu'on vous a parlé, François Julien, pour vous dire, à propos de ce livre ou d'autres que vous avez écrits précédemment, que vous auriez une orientation un peu, disons, élitiste. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Oui, je pense qu'il faut accepter d'entendre cela et en même temps d'y répondre. Parce que l'anti-élitisme paraît un terme, je dirais, coïncident, disons, du régime d'opinion d'aujourd'hui, où c'est aussi auto-suspect. Je pense qu'écrire un livre, c'est exigeant. Regarder un spectacle, c'est exigeant. Vivre, c'est exigeant. Donc, moi, je suis démocrate parce que je pense que tout le monde peut avoir l'intelligence et l'exigence de ça. Mais s'il s'agit de rabattre pour une sorte de version aplatie de tout ce que je viens de dire, alors je suis pour résister à ça.
Oui, mais justement, vous le dites dans le livre, on ne dit pas de n'importe quel livre qu'il est exigeant. Oui. Donc, alors que vous dites que tous les livres devraient être exigeants.
Je pense que c'est un pléonasme, un livre exigeant. Un livre qui n'est pas exigeant, pour moi, n'est pas un livre. Alors je sais que quand on me dit, parce que c'est ce qu'on me dit, ce qu'on épingle, n'est-ce pas, sur mon travail, vous écrivez des livres exigeants, je réponds. Et quand on me dit ça, c'est plutôt avec un ton de compassion, ou en tout cas de... c'est-à-dire... un livre qui se vend peu, un livre qui a peu d'écho, un livre qui, disons, n'est pas un livre comme ça, qui se trouve susciter ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir de la publicité. Hein.
Non plus. Mais il n'est pas si difficile, il n'est pas si gros. 213 pages.
J'essaie de le faire léger, j'essaie de le faire alerte, j'essaie de le faire agile. Mais cela dit, ça implique un effort de lecture. Parce que, disons... ça implique un montage, ça implique, disons, un travail d'élaboration. Élaboration, ça signifie que ce n'est pas d'emblée dans le régime de l'opinion. Et je pense que c'est là le grand écart aujourd'hui. Soit on reste dans le régime de l'opinion, coïncidant avec lui-même, et donc d'emblée intelligible, soit on ouvre un écart par rapport au régime de l'opinion. C'est ce que fait depuis le départ la philosophie, c'est ce que nous dit Platon, n'est-ce pas ? Ouvrir un écart par rapport au régime de la doxa, de l'opinion, pour, disons, commencer à élaborer, pour commencer à cheminer dans la pensée. Alors là, oui, c'est vrai qu'il y a écart, qu'il y a... on n'est plus branché sur les lignes de l'opinion. On tente de commencer d'élaborer. Donc, il y a là travail. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est tranché. Je veux dire, soit vous êtes du régime de l'opinion et, disons, vous vous vendez à la télévision, soit vous ouvrez un écart et donc vous entrez dans ce qu'on appelle livre exigeant et dans un effort de la pensée qui ne peut pas être écouté et reçu de façon aussi facile ou disons immédiate que l'opinion qui ne parle que ce dont on parle.
Mais vous avez écrit un livre exigeant et vous passez à la radio. C'est déjà pas mal.
Non, à l'émission des textes, là.
Vous vous rapprochez de la coïncidence.
Non. Parce que je suis militant. Donc, toute occasion que j'aurai pour fissurer la grande coïncidence idéologique et, disons, le régime de l'opinion d'aujourd'hui, je la prends, je la saisis. Parce que je trouve que c'est précieux. Je tiens à ce terme fissurer, c'est-à-dire, je ne suis pas dans la déploration, mais j'essaie de discerner ces coïncidences idéologiques, ces effets d'opinion massifs, pour pouvoir... engager un tant soit peu le couteau et commencer à ouvrir un écart en eux. Et l'avantage de cette fissuration, c'est qu'elle est d'emblée effective. Et en venant chez vous, j'ai le sentiment d'ouvrir un écart, de commencer à fissurer ces régimes de l'opinion qui rabat l'esprit.
Alors votre chapitre 2, François Julien, s'intitule « L'adieu au livre ». Livre avec un L majuscule.
Oui.
Alors qu'est-ce que ça veut dire l'adieu au livre ? Il y a encore des livres, les librairies sont remplies de titres innombrables.
Oui.
Donc à quoi sommes-nous en train de dire silencieusement adieu ?
À ce qu'a été le livre, avec son L majuscule, comme je le mets là, de façon symbolique et un peu ironique, c'est-à-dire une production de l'esprit qui s'écarte justement du pur régime de l'opinion par le travail, l'élaboration qu'il produit. Et je crois qu'effectivement, ce livre, qu'on va appeler donc un livre exigeant, pour le distinguer d'un régime des livres qui sont des livres d'opinion ou, disons, d'événements, ou qui sont des livres, des produits. Des produits, c'est-à-dire, au fond, on sait très bien comment faire un livre qui se vende beaucoup aujourd'hui. C'est une affaire d'audimat. C'est une affaire, disons, on sait quels sont les thèmes porteurs, on sait quelles sont les attentes du public. Donc, est-ce qu'un livre, c'est répondre à de l'attendu, du pré-attendu, ou est-ce qu'un livre, c'est justement engager une initiative de pensée qui s'écarte un peu de ce qui est déjà attendu, de ce qui est déjà lu? Alors, je crois qu'il y a un choix, là aussi. Je
veux dire, qu'en 1943, quand Jean-Paul Sartre apporte chez Gallimard les 700 pages de L'être et le néant, il n'y a pas de demande du public a priori.
Non, mais il y a quand même une réceptivité d'enveloppe. Qu'est-ce qui est au départ du livre? C'est la lecture. La lecture ne vient pas après, elle est avant. C'est qu'il y a, disons, une lecture de cela qui est possible. Or, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quelle modification de la lecture s'est-elle comme ça, progressivement, silencieusement installée, qui fait que cette chose que vous décrivez, à savoir L'être et le néant, ou La Phénologie de la perception, ces livres qui sont 700 pages, mais écrits tout petits, donc des sont plus possibles aujourd'hui, d'abord parce qu'ils sont plus vendables, d'abord parce que l'éditeur ne les prendra plus, d'abord parce qu'on ne fait plus de livres en deux volumes.
Mais il les réédite.
Oui, mais ça c'est l'après-coup. Il les réédite parce que, disons, le nom s'est imposé, parce que le livre fait référence, parce qu'il est, disons, maintenant attendu. Mais il faut voir le livre à son départ. Soit il répond à de l'attendu au départ, et alors c'est plus vraiment un livre, c'est un produit commercial. Soit il ouvre justement, par une initiative propre, quelque chose d'inattendu, et qui va faire son chemin, et qui le fera plus ou moins, et qui peut faire date même, comme pour L'être et le néant, ou pour la phénologie de la perception chez Merleau-Ponty. Mais bien, je crois que là, il faut quand même que les choses soient claires, c'est l'un ou l'autre. Il y a, si vous voulez, soit vous êtes dans le rythme de l'opinion, et de l'audimat, et donc du livre comme produit, soit vous ouvrez un écart avec cela, vous assumez une initiative d'auteur, aussi bien de lecteur, et disons, ce pourquoi je milite, c'est pour que cette seconde possibilité se maintienne ouverte, qu'elle ne disparaisse pas, qu'elle ne soit pas rabattue.
Vous écrivez, du coup, la frontière qui séparait le livre du document est tombée, ou disons que la limite qui isolait le livre de l'océan indéfini de l'écrit s'est effacée.
Oui, parce qu'un livre... Alors, on a critiqué dans la philosophie contemporaine l'idée de cette unité du livre, notamment chez Foucault, dans l'archéologie du savoir, ou dans... déjà dans les mots et les choses. Peut-être quelque chose de mythique. Pourquoi j'ai mis le L majuscule dans le livre? Néanmoins, ce mythe est porteur. L'idée qu'il y a quelque chose qui s'ose unitairement, qui paraît qui s'est dite, donc qui fait événement, même si c'est un événement qui n'est pas entendu du tout. Mais disons qu'il y a quelque chose qui est un geste décisif, dans lequel on s'engage, et auquel le lecteur se prête pour cheminer avec vous. Il y a donc une audace. Alors il me semble qu'effectivement, il y a rabattement dans la mesure où il y a maintenant une prolifération des livres, de l'écrit, qui laisse peut-être plus sa place à cette singularité audacieuse, aventureuse, qu'est un livre, avec ce qu'un livre implique de la part de celui qui l'écrit, de risques pris, d'échecs possibles, mais qui, à titre d'essai, est une aventure, c'est une œuvre d'initiative, bref, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est osé. Et je crois qu'il n'y a plus de vide d'esprit s'il n'y a plus audace. Vous voyez le grand mot de Platon, tolmétéon, il faut oser. Si l'on n'ose plus, on se réduit au régime de l'opinion, où tout est déjà attendu, donc sans plus d'audace.
Un autre de vos chapitres, je crois que c'est le numéro 3, François Julien, s'intitule « La perte de la présence ». Mmh. En fait, on n'est plus jamais vraiment présent au présent, en même temps qu'il y a seulement le présent qui s'impose à nous, quasiment.
Oui, alors je pense que l'effet du numérique, l'effet de ce qu'a été le distanciel, n'est-ce pas, qui précédait la Covid, mais que la Covid a... davantage encore installé.
Ouais, vous n'aimez pas l'adjectif présentiel.
Non, je trouve ça horrible. C'est présence ou pas. Mais disons...
C'est présent à distance.
Oui, alors c'est plus présent. C'est ça qu'il faut justement analyser. C'est que la présence, c'est quoi? C'est de l'événement. C'est de la saillie. C'est de l'émergence. J'aime beaucoup la formule d'Héraclite. Je trouve magnifique parce que... présents, ils sont absents. Donc ce que je mets en cause... c'est la présence-absence. C'est la présence qui n'est plus une présence, qui émerge, qui est une entrée en présence, mais la présence diluée, devenue continue, bref, qui n'est fait plus saillie. Je prends un exemple très simple. Quand je vais au cinéma, le dérangement d'aller au cinéma à une certaine heure, dans un certain endroit, de rencontrer d'autres gens, bref, il y a de cette présence, je suis présent au cinéma. Mais si je regarde un film chez moi, en buvant mon café, en l'arrêtant, en reprenant, ou en sautant, ou en zappant, eh bien, je n'ai plus la même présence. Donc, je crois qu'il y a une perte aujourd'hui de la présence qui est cette capacité. Parce qu'au fond, le présent n'est vraiment présent que par la présence. J'aime la formule de Goethe, n'est-ce pas ? La présence est la seule déesse que j'adore. C'est qu'en fait, c'est la présence qui rend présent. Parce que le présent, aussi bien qu'il est toujours déjà passé et qu'il n'est pas isolable, comme disaient les stoïciens, on ne peut pas le circonscrire. Justement, c'est l'entrée en présence qui fait saillir du présent. Et puis le présent, c'est pas la permanence, c'est pas la durée, c'est pas la continuité. La présence, justement, c'est de l'émergence.
La rencontre.
De la rencontre. Ah oui, là aussi, les Grecs le disaient très bien, n'est-ce pas ? Héraclite, toujours lui. Enkuresis, la rencontre. Le présent, c'est de l'affrontement. Et quand on dit rencontre, il faut entendre le contre de la rencontre. C'est donc quelque chose qui n'est pas, qui est de l'émergence par affrontement. Et on sait très bien, si vous sortez du bus et que vous mettez à prendre des photos comme ça, clic, hein, la photo, pour mettre ça en boîte, ou si vous osez affronter le paysage, ce que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas, et avec ce que cela commence à déranger en vous, parce que voilà, il faut sortir de soi, décoïncider de soi pour le regarder, eh bien, ça change les choses. Donc, est-ce que le régime de la technicité d'aujourd'hui n'instaure pas une sorte de présence diffuse, continue, où on ne peut plus vraiment en présence, et qui fait que, finalement, cette capacité d'être présent par l'avènement de la présence, c'est par la présence de l'autre, c'est pas la rencontre, hein, et aussi donc de se déranger, se trouve estompée.
Mais si je comprends bien, il faut, pour être présent, il faut, enfin, plutôt pour être ensemble, il faut déjà être présent.
Il faut être présent.
Or, chacun peut individualiser son rapport au temps grâce à son téléphone. Oui. Chacun vit dans son rapport au temps personnel.
Un exemple tout simple qu'on a tous vu. Vous voyez deux jeunes gens au café qui vont se rencontrer et chacun sort son portable et regarde ses défilés des images ou fait des textos. Ils sont plus présents. Il y a un semblant de présence. Et au fond, tout mon livre essaie de faire apparaître ce semblant. Un semblant de livre, un pseudo-livre. Eh bien, il y a un semblant de présence, ou une pseudo-présence. Donc c'est ce pseudos, n'est-ce pas ? Ce que j'appelle la pseudo-vie, n'est-ce pas ? Il y a la vie qui vit, puis la non-vie, c'est-à-dire la vie qui s'enlise dans une sorte de pseudo-vie, où on croit qu'on vit, mais on ne vit pas. Donc je dénonce cette présence, je désigne, cette présence, qui, ce semblant de présence, ce semblant de lecture, quand on lit sans vraiment lire. Enfin bref.
C'est assez drôle d'ailleurs, vous racontez dans le livre ce que vous appelez la tragique histoire des amants. Vous pouvez nous donner un petit résumé?
Mais oui, parce que imaginez des amants qui vont se retrouver, comme on dit, et qui se disent, bon voilà, on va trouver un coin un peu perdu, un peu à l'écart pour être vraiment ensemble. Et puis ils arrivent à l'entrée de l'hôtel, on leur donne le code du Wi-Fi, enfin de, bon bref, pour se connecter. Et effectivement, si chacun commence à se connecter, eh bien, il n'y a plus la rencontre, c'est-à-dire cet affrontement, n'est-ce pas, dans le temps présent qui fait que rencontre, il faut entendre le contre de la rencontre, n'est-ce pas, qui est que une rencontre, c'est pas une relation, c'est justement entre rapport avec de l'autre, avec cette chose trouble que si l'autre est vraiment autre, comment est-on en rapport avec lui, et si l'autre est assimilé, c'est plus l'autre. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, là encore, de saillant et, disons, de vertigineux dans la rencontre. Or, si chacun est constamment connecté, si, disons, en même temps que je fais une chose, j'en fais une autre, c'est-à-dire que en même temps que vous me parlez, je suis en train de zapper ou, disons, de défiler sur mon portable ce qui s'y trouve. La phrase d'Héraclite est juste. Présents, ils sont absents.
Oui, mais ce code Wi-Fi, en général, on le demande, il ne nous est pas imposé. Et donc, si on le demande, c'est parce qu'on souhaite pouvoir s'en servir. Qu'est-ce que ça dit de nous, de le réclamer ?
Je pense qu'on est dans un régime d'opinion qui fait que c'est attendu, c'est partie des commodités, attendu, et qu'il faut partir aussi du standing de ce qu'on nous offre. Mais voyez, la différence, c'est quoi par rapport au passé ? C'est que Ce que je crains aujourd'hui, c'est que nous n'ayons plus le choix. C'est-à-dire qu'avant, si vous voulez, il y a le téléphérique, je peux monter à pied. Il y a l'ascenseur, mais je peux monter mes escaliers. Mais maintenant, il me semble que de plus en plus, cet emploi du numérique, tout ce qui est, il suffit de cliquer, se généralise au point que l'autre possibilité se raréfie. Et c'est cette raréfaction-là qui me paraît dangereuse, puisque finalement, maintenant, quand j'emplis ma feuille d'impôt, ou n'importe quoi qui s'impose à moi, ou je veux par exemple aller, ce que j'ai fait hier, chercher à aller au musée, eh bien, il faut d'abord que je clique. Je ne peux plus aller au musée. Il faut que je clique, et donc je passe par tout un système de vérification, de code, sur mon portable, par la banque, etc. Donc, quelles sont toutes ces chicanes qui s'organisent, tous ces dispositifs, comme on dit, n'est-ce pas, qui font que, eh bien, cette initiative d'aller au musée se trouve déjà enlisée, paralysée, je dirais. Et alors on dira, c'est commode, bien sûr, ça...
Oui, c'est-à-dire, est-ce que vous seriez prêt à, comme autrefois, faire la queue longuement
La queue n'est pas un moment mort. Justement, ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on supprime les moments morts, les moments d'attente. Parce que les moments d'attente, c'est aussi les moments de désir. Ce sont les moments où quelque chose devient insistant en moi, une sorte d'instance, n'est-ce pas, qui se fait. Et moi, je sais que j'aime attendre aussi, avant d'aller au cinéma, enfin, attendre dans la queue, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas faire l'éloge des queues, des queues des magasins, etc. Simplement, si vous voulez s'installer dans un régime continu de pseudo-présence, où tout se trouve comme ça, réglé par des dispositifs qui progressivement enserrent, encore une fois, mon initiative, la restreignent et amortissent la vie. Je pense que cet amortissement généralisé m'empêche de vivre au sens de la vraie vie.
Ça empêche de raviver de l'esprit, comme vous dites. Et à propos de ce que veut dire penser, vous dites quelque part dans le livre, penser, c'est décoïncider de la coïncidence installée. C'est un mot que vous employez souvent, décoïncidence. Vous avez même écrit un livre sur le sujet.
J'essaie de le porter au concept.
Mais est-ce que cette décoïncidence oblige sans cesse à être original?
Ah, je pense que c'est un effort. C'est un risque aussi. Mais vous savez que j'ai souhaité porter ce terme de décoïncidence au concept. Pour dire simplement ceci, c'est que la coïncidence, c'est quoi? C'est une adéquation installée, et qui, du fait qu'elle est installée, se satisfait d'elle-même, et donc s'enlise, se paralyse. Et décoïncider, c'est donc ouvrir un écart par rapport à cette coïncidence installée, et remettre en chantier, ouvrir des possibles, et effectivement se remettre à penser. Penser, pour moi, c'est décoïncider du déjà-pensé. Comme pour être un artiste n'est artiste qu'autant qu'il décoïncide de l'art déjà fait. Et c'est la question qui se pose effectivement tous les jours. C'est pas seulement décoïncider de ce qui a déjà été pensé avant moi, c'est aussi décoïncider de ce que j'ai déjà pensé. C'est pour ça que j'écris un nouveau livre. C'est pour me ouvrir un écart, me détacher, décoïncider de la coïncidence de pensée dans laquelle je suis. Je m'installe, c'est pas, pour remettre en chantier. Et donc je crois qu'effectivement c'est une exigence et que c'est, au fond je dirais, vivre, c'est décoïncider du déjà vécu. C'est la question qu'on se pose tous les matins. Est-ce que la journée qui vient est une journée qui va répéter la veille, donc une journée déjà rabattue, ou est-ce que je peux rouvrir un écart par rapport à ce que j'ai déjà vécu et me remettre à vivre?
Ça tombe très très bien, parce que ça montre que l'anagramme de la décoïncidence lui va très bien. L'anagramme de la décoïncidence, c'est cadence indocile.
Ah oui,
ça doit vous plaire, ça.
C'est parfait.
Alors justement, vous dites à propos de la radio et de la télévision, vous n'êtes pas très tendre, vous dites, mais à la télévision comme à la radio, tout est traité de façon homogène, tout de la même voix, imperturbablement s'enchaîne. Il n'y a même pas le moindre temps de pause ou de suspens, et la seule différence de traitement est dans le laps de temps accordé. Vous dire qu'il n'y a pas assez de silence à la radio? Je ne sais pas si vous avez vu une interview qui a été donnée en 1958 par Oppenheimer, qui était en visite en France. Il avait reçu la Légion d'honneur, il était interrogé par Pierre Desgroupes, et on peut voir cette interview qui dure 20 minutes dans les archives de l'INA. Pierre Desgroupes pose sa question et on voit Oppenheimer, qui parle français parfaitement, écoutant la réponse, la question, pardon, il prend le temps de réfléchir pendant quelques secondes. Oui. Ensuite, il développe une réponse en français parfaite, mais on le voit réfléchir.
C'est légitime.
Spectacle qui est devenu assez rare à la télévision.
Soit vous répondez instantanément et donc vous répétez.
Ne répondez pas trop vite à ma question.
Ce qui est déjà pensé, vous circule dans l'opinion. Soit il vous faut... C'est pas que je ne suis pas un philosophe de télévision. Parce qu'il s'agit d'appuyer sur un bouton. Là encore, c'est un clic, si vous voulez. Et vous répondez au clic qu'on a produit en vous. Non, je pense que... là encore, l'attente, là encore, ce qu'on appelle le temps mort, là où apparemment il ne se passe rien, mais où justement chemine, est en gestation la pensée, c'est très légitime. Alors, pour la radio, oui, ce qui me paraît frappant, la radio, la télévision, c'est que tout se succède, disons, dans une sorte de continuité factice. Parce que, avant, dans le journal, si je lis le journal, je peux regarder à droite un article, à gauche, sauter à la page, en sauter deux, etc. J'ai une initiative. Mais à la radio ou à la télévision, je suis maintenu dans une sorte de continuité où on parle des boîtes people, on parle du foot, on parle de choses qui n'ont rien à voir, incommensurables les unes avec les autres. Les gens qui meurent dans le haut, et puis ceux qui, disons, pseudo-événements d'un... Bon. Et tout ça est mis dans une continuité lénifiante, là encore, n'est-ce pas ? Qui rabat ce qu'il y a d'émergent, de saillant, de provoquant dans la nouvelle qu'on
Mais
peut
donner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait ménager des silences entre les titres et leur développement.
Je pense que le silence est essentiel. Je pense que le silence, parce que le silence, c'est là justement où quelque chose, une activité se met en cours, en gestation, et n'est pas forcée par le théâtral, par une sorte de spectaculaire. Alors je crois que si on veut effectivement que tout soit spectaculaire et à tout bout de champ, eh bien on est dans une sorte de pseudo-intensité où au fond tout est réduit, aplati, rengainé, bref, disons... Ou cette émergence, parce que pour qu'il y ait émergence, il faut bien qu'il y ait un temps d'avant, qu'il soit un temps, justement, flou.
Oui, mais vous dites que, je reviens à la philosophie, vous dites que ça consiste à décoïncider, mais la philosophie, ça s'enseigne. Quand on l'enseigne, finalement, on est bien obligé de ne pas trop s'écarter de ce qu'elle a été.
Je pense que, justement... Enseigner la philosophie, ce n'est pas enseigner la coïncidence philosophique, c'est faire l'inverse. C'est enseigner, apprendre aux jeunes gens, aux futurs bacheliers, comment décoïncider du régime de coïncidence installé. Et justement, prenez par Platon, c'est une pensée qui a décoïncidé, comme tous les grands philosophes ont décoïncidé. Mais après, il y a le platonisme, l'aristotélisme, il y a tous les ismes. Alors les ismes deviennent coïncidents. Mais justement, comme on dit l'impressionnisme, comme on dit le cubisme... Ça refait comme incidence. Mais justement, je pense qu'enseigner la philosophie, c'est enseigner ce geste audacieux, encore une fois, il faut oser de Platon, qui fissure la pensée établie et la remet au travail. Il rouvre des possibles. C'est ça qui me paraît important. Donc, enseigner n'est pas enseigner la coïncidence, c'est apprendre aux jeunes gens comment fissurer la coïncidence établie pour qu'ils retrouvent une initiative de pensée.
Mais c'est épuisant.
C'est épuisant. C'est épuisant et puis ça ne se vend pas. Parce que ce qui se vend, c'est la coïncidence.
Parce que c'est moins fatigant.
C'est moins fatigant et c'est attendu. Donc le marché s'y reconnaît. Je veux dire, les livres qui se vendent bien sont des livres coïncidents parce qu'ils sont déjà inscrits dans le marché. Et puis pour ceux qui en parlent, c'est facile puisqu'ils ont tous les mots pour le dire. Mais un livre qui ouvre un écart par rapport au marché des idées, donc qui en décoïncide, eh bien, il faut le lire pour en parler. Merci de l'avoir fait. Et puis, disons, il faut se mettre à travailler pour... trouver les termes qui pourraient commencer d'en parler. Donc effectivement, c'est exigeant et ça ne se vend pas. Vous voyez, c'est pas bon des deux côtés.
Vous parlez très brièvement, mais c'est un point important, François Julien, dans votre livre de ChatGPT, cette machine qui produit des phrases sans qu'il y ait d'auteur derrière ces phrases. Comment est-ce que vous voyez l'évolution et comment est-ce que vous pensez que ce type d'agents conversationnels, comme on les appelle, peuvent changer notre façon de penser en produisant des phrases qui certes n'ont pas déjà été dites mais qui ont été fabriquées à partir de textes déjà écrits et qui sont retravaillés par des algorithmes qui permettent de voir des corrélations. En fait, c'est une langue morte au sens où ce que dit ChatGPT a déjà été dit.
Oui, et une langue morte qui n'a jamais été vivante. C'est-à-dire une langue qui n'est jamais née. Je reviens au terme d'initiative. C'est-à-dire, en fait, ce qui me paraît frappant dans ce que vous décrivez là, c'est qu'il n'y a plus d'initiative. C'est-à-dire, il n'y a plus de risque de la pensée qui s'ose et qui s'aventure. Bref, il y a quelque chose qui est déjà prédisposé. Alors, bien sûr, je sais qu'en termes de compétences ou en termes d'érudition, ça va être très bon et ça va s'améliorer de plus en plus. Donc, ça sera vraiment, là encore, du facsimilé. Mais ce que je ne cesse de dénoncer pour la présence, pour le livre, c'est le facsimilé. N'est-ce pas ? C'est-à-dire un semblant dont on ne soupçonne plus qu'il est un semblant, qu'on prend pour la pseudo-vie, c'est un facsimilé de vie par rapport à ce qui serait la vraie vie.
Oui, mais c'est parce que l'informatique est devenue affective et presque humanoïde. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet qu'on appelle l'effet Elisa, un ingénieur du MIT en 63, qui s'appelait Joseph Weizenbaum, qui invente une machine. Par rapport à celle d'aujourd'hui, c'est vraiment embryonnaire. C'est une machine à qui on peut donner des phrases, et elle est capable de les transformer en questions, et de les poser à celui qui les a entrées. Et donc la machine parle et pose une question. Et ce qu'on appelle l'effet Elisa, c'est que cette machine, déjà à l'époque, avec des capacités bien moindres qu'aujourd'hui, provoquer des émotions chez les utilisateurs. Alors aujourd'hui, quand votre ordinateur vous parle, votre téléphone vous parle, vous ne pouvez pas vous empêcher qu'il y ait en lui une part d'humanité.
Oui, mais enfin, on peut aussi le fermer, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, au fond... je pense que nous sommes appelés, je crois, à avoir une stratégie aujourd'hui pour garder notre initiative de sujet. Encore une fois, je ne suis pas dans le thème du déclin ou la dénonciation. Je pense qu'il faut simplement réfléchir à la stratégie qui nous permettrait de maintenir active la vie, comme on dit, de l'esprit. Donc, il faut aussi de la ruse. Oui, moi, je suis pour ça. Quand je parle de ruse, je pense à Nietzsche, n'est-ce pas ? Le fait que... je ne sais pas si notre époque est meilleure, moins bonne qu'une autre. J'ai pas de jugement à cet égard. Mais je pense qu'il faut trouver stratégiquement comment ne pas être pris au piège de cela. Comment ne pas être seulement des sujets qui seraient connectés, communicants, consommateurs, bref, tout ce qui nous paralyserait dans notre initiative de sujet. Donc, comment retrouver l'initiative ? Alors, je pense qu'il y a là une question d'hygiène personnelle aussi à assumer, qu'il n'est pas du tout élitiste, hein, qui est simplement que, bah oui, si je lis, je me concentre dans la lecture pour que ce soit effectivement une lecture, pas un semblant de lecture, dont je ferme mon portable ou je fais, disons, cet effet de silence, comme on a dit tout à l'heure, cet effet aussi d'isolement, cet effet de déprise par rapport à cette prise dans laquelle on est, si vous voulez, suffocant tellement elle est continue et, disons, ambiante. Je crois que là, il y a quelque chose qui est de l'éthique. Éthique stratégique. Pour garder son agilité, pour rester alerte. J'aime beaucoup le terme, n'est-ce pas ? Alerta, l'italien. C'est-à-dire sur la hauteur pour guetter ce qui vient et la menace de ce qui vient. Donc il ne s'agit pas de déplorer quoi que ce soit. Il s'agit simplement de voir quelle, disons, initiative du sujet pouvoir réactiver, mobiliser, pour qu'on ne soit pas seulement dans une sorte de facticité, de pseudo-vie, pseudo-présence, etc.
Mais vous donnez, François Julien, une autre clé. Vous vous rappelez que l'avènement technique de la photographie a forcé la peinture en Europe il y a plus d'un siècle, là je vous lis, à sortir de la coïncidence, c'est-à-dire de la perspective et de la ressemblance, et à se repenser, à décoller d'elle-même et à inventer ce qu'on appelle de façon trop pauvre l'abstraction. On pourrait faire la même chose avec le numérique.
Absolument.
Qui nous force à penser autrement.
Mais oui,
mais en inventant une nouvelle façon de faire.
Oui, mais je pense que c'est ça que j'appelle. Je dis, mon titre c'est raviver de l'esprit. C'est pas une déploration. C'est pas la perte, je ne sais quoi, le déclin. C'est que je crois qu'effectivement, nous sommes dans la même situation où une technicité s'impose à nous, à laquelle on n'échappe pas. Comme la photographie s'est imposée dans ce contexte-là. Et donc, cette technicité du numérique, elle implique à ce qu'on trouve une capacité de nouvelle initiative, et donc, évidemment, créatrice, et donc, là aussi, aventureuse, pour, disons, que cela porte à penser d'autant plus qu'on décoïncidera de cette sorte de pseudo-pensée installée. Donc je crois qu'effectivement, c'est pas que je ne suis pas dans la déploration, alors est-ce que nous sommes capables ? Est-ce qu'on peut être comme les grands peintres de la fin du 19e siècle qui ont su, décoïncider de la peinture installée ou de la photographie, instaurant son marché pour avoir cette initiative créatrice ? C'est la question qu'on se pose à nous, n'est-ce pas ? Est-ce que nous sommes capables d'une sorte de rebond et, disons, de nouvelle invention ? Ou est-ce qu'on va laisser rabattre tout cela dans une sorte de consommation continue ?
Mais est-ce que la fin du livre, dont vous évoquez la possibilité, déboucherait, si elle se manifestait vraiment, est-ce qu'elle déboucherait sur une fin de la philosophie ?
Alors ça pose la question...
Est-ce que la philosophie a besoin du livre ?
Voilà, c'est une question. C'est une question, on sait bien que Socrate n'a pas écrit, cela dit...
Mais il a lu.
Oui, il a lu, oui, bien sûr, il le dit qu'il a lu. Hein. Anaxagore, il l'a lu. Il a même cru y trouver la révélation. Donc, oui, je pense que ça sera... le futur n'est pas écrit. Mais disons, ce qui me paraît important dans le rapport de la philosophie à l'écrit, en tout cas dans mon expérience, c'est que il y a un temps de la parole, avec son improvisation, Mais il y a un temps de l'écrit qui est celui de la réflexion et, disons, d'un travail de la langue, d'une élaboration qui se fait comme ça silencieusement, qui est une gestation. Et puis, en même temps, c'est quelque chose qui, ensuite, est un repère pour les autres. Je veux dire, les concepts produits par un philosophe, produits dans un texte, eh bien, ça nous donne à travailler. Ça nous donne, nous-mêmes, à savoir comment nous situer par rapport à cela et je dirais, en décoïncider. Bref, donc je crois que... est-ce que la philosophie pourrait redevenir purement socratique et donc un pur effet de parole?
Mais est-ce qu'on n'est pas de plus en plus sommé de réagir plutôt que de réfléchir? Réfléchir, ça demande du temps et ça demande de ne pas être dérangé.
Là, par contre, c'est clair pour moi. C'est justement ce que je ne veux pas.
Justement.
C'est-à-dire sortir du réactif pour, disons, être dans le réflexif. Ça me paraît. Alors, par contre, condition vitale de la philosophie. Sinon, c'est pas la philosophie. Si on est dans le réactif, c'est pas la philosophie.
Mais c'était plus facile avant.
Oui.
Je cite Paul Valéry à nouveau. Le courrier ni le télégramme ne harcelaient Platon. L'heure du train ne pressait pas Virgile. Descartes s'oubliait à songer sur les quais d'Amsterdam.
Bien sûr. C'est cette revendication du temps mort, de l'attente, de ce qui n'est pas saillant, spectaculaire, mais qui est justement la fécondité de la gestation, de ce qui tâtonne, de ce qui se cherche comme ça dans l'ombre. Et disons, je crois que, si je parle de stratégie, c'est qu'il faut garder un temps pour cela. Après, chacun le fait comme il veut dans sa vie. Mais disons, je n'imagine pas qu'on puisse écrire un livre sans justement se déconnecter, se débrancher, quelque part s'isoler. Et ça n'a rien d'élitiste, de façon à pouvoir retrouver l'initiative, je reviens à ce terme, et pouvoir à nouveau frais élaborer.
La philosophie, vous l'écrivez, est donc un discours terriblement solitaire au sein des discours coïncidents d'aujourd'hui, affrontant sans cesse sa limite et même héroïque dans ses opérations. Est-ce que vous vous sentez seul, François Julien?
Je pense qu'un philosophe est seul. Ça, je crois que il y a une solitude philosophique. Sinon, vous êtes dans la pensée coïncidente. Vous êtes dans la pensée ambiante et coïncidente. Donc, si vous pensez savoir si vous ouvrez un écart par rapport à cela, forcément, cet écart vous met dans la solitude. Vous savez, c'est le grand mot de Parménide au début de son poème, quand il dit « apo ton anthropon », à l'écart des hommes. Je crois qu'il y a ectos tou patou, il dit hors du sentier battu, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a que le geste d'où vient la philosophie est un geste de d'écart et donc qui vous met dans une solitude. Alors après, on ne cesse de sortir de sa solitude, de vouloir en sortir en tout cas. C'est pour ça qu'on écrit, c'est pour ça qu'on s'adresse à l'autre. Mais il y a ce moment de solitude qui est celui de. Justement, où se réélabore une initiative.
Mais cet effort de solitude, il me semble qu'il est de plus en plus un effort. C'est-à-dire que on est constamment dérangé, ou en tout cas tenté même d'être dérangé, et que ça demande une sorte d'ascèse.
Je pense.
Qui n'est plus de mode. Je cite, pour vous faire réagir, Stefan Zweig, qui a écrit en 1941, donc peu de temps avant de se suicider, il écrit « La technique n'a pas appelé sur nous de pires malédictions » qu'en nous empêchant, fût-ce pour une seconde, d'échapper au présent.
Mais je crois... Alors, vous voyez, moi, je veux éviter le langage de la malédiction, du déclin, de tout ce qui serait déploration, parce que je me dis en même temps, il faut savoir discerner dans le présent ce qui se féconde, ce qui est en train de s'oser, même si ça n'apparaît pas encore. Donc, toi, je parle de diagnostic. C'est repérer ce qui peut être porteur, fécond, mais disons... être vigilant et alerte, vigilant. Et je crois que nous sommes appelés aujourd'hui à une vigilance qui implique un effort pour justement ne pas se laisser aller dans ce régime du réactif, de la coïncidence, de ce qui est déjà attendu, de ce régime donc de parole continue, mais qui n'est pas vraiment écouté. Bref, de ce branchement généralisé, se débrancher.
Mais François-Julien, on pourrait presque défendre la thèse inverse, à savoir que chacun peut penser à sa façon, puisque le numérique dont vous parlez beaucoup, en quelques clics, permet à chacun de fabriquer son petit chez-soi idéologique, dans lequel tout le monde, qui forme une communauté au sein de laquelle tout le monde croit les mêmes choses, s'abreuve aux mêmes sources. Et à force de se singulariser les uns et les autres, ces petits groupes finissent par ne plus communiquer. Et ça ne fait plus une société. Donc pour qu'il y ait une société, il faut quand même qu'il y ait de la coïncidence.
Non, je ne pense pas. Je pense que justement, vous l'avez dit, fabriquer, n'est-ce pas ? Mais je vois que la pensée, elle ne se fabrique pas comme ça. Je crois que justement, le commun, d'où vient le commun ? Le commun, il vient justement de ce que des écarts s'ouvrent entre nous. Écart de génération, écart de métier, écart de toutes sortes, n'est-ce pas ? Et que l'écart maintenant en regard fait apparaître de l'antre, avec un E, n'est-ce pas, du between. Et c'est dans cet antre que se promet le commun. Donc le commun, soit c'est un commun rabattu, qui est un commun, disons, d'assimilation généralisée, où il n'y a plus de singularité. Mais si c'est un commun actif, un commun promu, il faut que ce soit un commun qui, justement, émerge des écarts, et des écarts, j'insiste, maintenant en regard, donc faisant apparaître un antre en tension où se promeut le commun. Ça, c'est du commun actif, promu. Sinon, c'est du commun rabattu.
Éric Sadin, dont je n'ai pas encore lu le livre, mais qui parle des sujets assez proches des vôtres, dit qu'on a 3 ou 4 ans pour réagir par rapport à ce que fait aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ça presse. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'urgence à réagir afin de faire en sorte que on continue d'éprouver le besoin d'amener ses enfants à l'école pour apprendre à écrire, à compter, sachant que les machines le font de toute façon, dans beaucoup de cas, beaucoup mieux que nous.
Beaucoup mieux que nous. Alors, je pense qu'il y a urgence, oui. Il y a une urgence climatique, on en parle, on s'en occupe, peut-être pas assez, mais en tout cas,
on en parle.
Elle nous obsède. Je pense qu'il y a une urgence de la même sorte, mais plus difficile à éprouver, parce que l'urgence climatique, on peut trouver d'abord des causes au changement climatique, le CO2. Et puis, on l'éprouve directement, comme ça, de façon sensible. Alors que ce rabattement de l'esprit, il touche à l'invisible. Et puis peut-être qu'il nous implique encore davantage que simplement le fait de transpirer, n'est-ce pas ? Et qui fait qu'il y a maintenant urgence. Alors, est-ce à réagir ? Je vois justement que ce soit pas dans le régime réactif, que ce soit dans le régime réflexif, qu'il y ait le diagnostic et ce qui vient. Non pas de s'en lamenter, déplorer, etc., ce qui n'apporterait rien d'autre, mais disons, de voir comment retrouver une stratégie pour réaffirmer une initiative des sujets singuliers que nous sommes, n'est-ce pas, de façon à ne pas nous laisser entraîner dans ce rabattement généralisé qui menace comme menace, disons, parce qu'il y a les ressources naturelles, il faut s'en occuper, qui sont menacées aujourd'hui, il y a les ressources aussi d'esprit. Et elle aussi, on pourrait s'en occuper. Et moi, je suis quand même sidéré du fait que on parle donc, et encore une fois, peut-être pas assez, peut-être de façon pas assez mobilisante, de cette menace climatique et de la perte des ressources naturelles. Mais il me semble qu'il est essentiel aujourd'hui, urgent effectivement, dans les années qui viennent, c'est-à-dire maintenant, hein, de s'occuper du rabattement des ressources de l'esprit. Et je trouve qu'il n'y a rien, personne qui le signale vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a là une sorte de silence, mais qui n'est pas le silence qu'on évoquait tout à l'heure, le silence fécond de la maturation, un silence par peut-être désistement ou disons renoncement.
Une petite citation pour finir, parce que à cause de vous, ou plutôt grâce à vous, j'ai relu Paul Valéry.
Je vois, vous l'avez bien relu.
L'esprit est peut-être un des moyens que l'univers s'est trouvé pour en finir au plus vite. Je ne comprends pas cette phrase, mais je vous la livre.
Oui, je préférais dire de l'esprit. Parce que l'esprit, je crains toujours cette sorte de grand fantôme.
Merci.